Le Monde Aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 21 février 2025. L'Union européenne convoque l'ambassadeur du Rwanda en condamnant l'offensive en cours du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Les violences en RDC ont forcé 42 000 personnes à fuir vers le Burundi en 2 semaines, un chiffre en hausse avec l'avancée du M23 vers la ville d'Uvira.
Je dois avouer que la situation est vraiment critique à ce moment. Beaucoup de gens n'ont pas accès à l'eau, n'ont pas accès à l'électricité.
Pasteur Camille Ntoto de l'ONG Africa New Day fera le point sur les déplacés dans l'est de la RDC dans la partie magazine. En Ouganda, l'opposant Kizza Besigye est accusé de trahison, une infraction passible de la peine de mort. L'Arabie Saoudite accueille aujourd'hui un sommet des dirigeants arabes sur Gaza. Le Sénat américain a voté un budget prévoyant une augmentation de plus de 300 milliards de dollars de dépenses publiques malgré les objections des démocrates. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. L'Union européenne convoque l'ambassadeur du Rwanda auprès de l'Union européenne pour demander le retrait des troupes rwandaises de l'est de la RDC. L'organisation dit condamner l'offensive en cours sur le territoire congolais. Alexandrine Olignon.
Le gouvernement du Rwanda doit immédiatement retirer ses troupes du territoire de la RDC et cesser de soutenir le M23 ainsi que tout autre groupe armé, a écrit un porte-parole de la diplomatie européenne, Anouar El Anouni, dans un communiqué. L'UE affirme soutenir pleinement les efforts pour parvenir à une résolution pacifique du conflit et exhorte le Rwanda et toutes les parties au conflit à cesser immédiatement les hostilités et à revenir au dialogue. L'annonce de l'Union européenne intervient au lendemain de la convocation par l'Allemagne de l'ambassadeur rwandais à Berlin. Les États-Unis avaient par ailleurs annoncé jeudi des sanctions financières contre l'ancien ministre d'État rwandais, James Kabarebe, accusé d'orchestrer le soutien des troupes rwandaises au M23. L'UE envisage aussi des mesures contre Kigali. La Belgique, de son côté, mène une initiative pour des sanctions qui pourraient cibler des responsables rwandais, le blocage d'un accord préliminaire sur les minéraux ou encore la suspension de l'aide au développement et du soutien au casque bleu rwandais au Mozambique.
Les violences en République démocratique du Congo ont poussé quelques 42 000 personnes, en majorité des femmes et des enfants, à trouver refuge au Burundi en 2 semaines, a indiqué aujourd'hui l'ONU, qui s'attendait initialement à 58 000 arrivées en 3 mois. Selon le HCR, le nombre de personnes fuyant vers le Burundi devrait continuer à augmenter à mesure que le M23 se rapproche de la ville d'Uvira, près du principal point de passage officiel de la frontière. L'ONU doit se prononcer ce vendredi sur un texte condamnant pour la première fois directement le Rwanda pour son soutien au groupe armé. Un tribunal de première instance ougandais a inculpé de trahison l'opposant Kizza Besigye. Il a ainsi rejeté les demandes de l'avocat de l'accusé qui souhaitait que son client soit transféré à l'hôpital pour l'aider à se rétablir d'une mauvaise santé due à une grève de la faim. Les détails avec Nanine Talani.
Le tribunal de première instance a émis de nouvelles accusations de trahison et de dissimulation de trahison, ce qu'il a qualifié de tentative de renversement du gouvernement. Mais il a refusé d'autoriser Kizza Besigye, 68 ans, à plaider parce que ses infractions ne peuvent être jugées que par une juridiction supérieure. L'un des avocats de Besigye a demandé ce vendredi à la magistrate en chef Esther Niadoua d'ordonner aux autorités pénitentiaires d'emmener M. Besigye dans un hôpital pour qu'il y reçoive des soins médicaux spécialisés. Mme Niadoua a déclaré que son tribunal n'avait pas le pouvoir d'accéder à une telle demande. C'est en chaise roulante que l'opposant et critique du président Yoweri Museveni a comparu devant le tribunal de Kampala, la capitale, l'air fragile. Il a été brièvement hospitalisé le week-end dernier et un ministre du gouvernement a déclaré cette semaine que son état de santé était alarmant. M. Besigye a été enlevé au Kenya en novembre et accusé de comploter contre le gouvernement de Museveni dans une affaire condamnée par les groupes de défense des droits de l'homme.
La trahison est passible de la peine de mort en Ouganda. Besigye est détenu depuis le 16 novembre, date à laquelle il a disparu vous l'avez dit, Nanit, dans la capitale kenyane, Nairobi. L'armée française au Sénégal organise un forum des métiers le 6 mars pour aider au reclassement de ses 662 employés sénégalais licenciés en raison du retrait des bases militaires françaises en 2025. Ce forum vise à leur offrir des opportunités d'emploi dans des entreprises locales de divers secteurs. Le ministre béninois de l'enseignement secondaire, Kouaro Yves Tchabi, est décédé à 52 ans dans un accident de la route près de Parakou. Son véhicule a violemment percuté un camion, entraînant aussi la mort de son garde du corps.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Afrique du Sud plaide pour une résolution du conflit ukrainien impliquant toutes les parties et invite Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, pour une visite d'État. Cyril Ramaphosa, tout en maintenant ses liens avec Moscou, affirme soutenir le dialogue entre la Russie et l'Ukraine. L'Arabie Saoudite a accueilli aujourd'hui un sommet réunissant 8 dirigeants arabes pour discuter d'un plan en réponse à la proposition de Donald Trump de placer la bande de Gaza sous contrôle américain. Le point avec Rosine Monizero.
Riyad a tenté de modérer les attentes en annonçant une réunion fraternelle informelle habituelle entre les dirigeants des 6 pays du Golfe ainsi que ceux de l'Égypte et de la Jordanie, précisant que ces décisions figureront à l'ordre du jour du sommet arabe prévu en Égypte le 4 mars. Le président américain propose le déplacement en Jordanie et en Égypte des 2,4 millions d'habitants de l'enclave et la transformation du petit territoire palestinien en riviera du Moyen-Orient. Un large consensus arabe s'est dégagé contre la vision de Donald Trump pour Gaza, mais des divergences pourraient apparaître quant à la question de la gouvernance future du territoire palestinien et du financement de sa reconstruction, soulignent diplomates et experts. Sa reconstruction est estimée à plus de 53 milliards de dollars selon l'ONU. Nous sommes à un tournant historique majeur du conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien où les États-Unis, sous la présidence de Trump, pourraient instaurer de nouvelles réalités irréversibles sur le terrain, estime Andreas Krieg du King's College de Londres, pour qui il s'agit de la rencontre la plus importante depuis très longtemps dans la région.
Aucun communiqué n'a été publié à l'issue de la rencontre et aucune déclaration n'a été faite à l'occasion. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky acceptera à très court terme de signer un accord sur l'exploitation des minerais de son pays, a affirmé le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Mike Waltz, lors d'un rassemblement des conservateurs près de Washington. Début février, le président républicain avait annoncé vouloir négocier un accord avec l'Ukraine pour obtenir un accès à 50% de ses minerais stratégiques en échange de l'aide américaine déjà livrée, mais le président Zelensky l'a rejeté. Un haut responsable ukrainien a cependant indiqué ce vendredi que l'Ukraine et Washington poursuivent les négociations sur un accord concernant l'exploitation des minerais ukrainiens. Le Sénat américain à majorité républicaine a adopté aujourd'hui une résolution qui ouvre la voie à un budget comprenant des centaines de milliards de dollars supplémentaires pour la sécurité des frontières. Le projet est pourtant dépourvu des faveurs de Donald Trump lui-même qui le juge trop limité. Le point avec Eric Manirakiza.
La résolution prévoit une hausse potentielle des dépenses publiques de plus de 300 milliards de dollars, allant principalement à la sécurité aux frontières, au Pentagone ou encore à la politique énergétique des États-Unis. Le président américain a remercié jeudi les républicains du Sénat sur sa plateforme Truth Social de travailler si dur à financer le programme Trump à la frontière. Mais sans pour autant revenir sur ses propos de mercredi, il exprimait son opposition au texte débattu à la Chambre haute. À l'inverse de la version du Sénat, le texte à la Chambre met en place mon programme complet de l'Amérique d'abord, avait-il déclaré. En minorité au Sénat et sans réelle possibilité de bloquer le texte, les démocrates espéraient toutefois mettre les républicains dans l'embarras en leur faisant rejeter publiquement certaines mesures populaires. La pression est désormais sur la Chambre des représentants, dont les responsables républicains assurent vouloir adopter leur propre projet budgétaire, incluant l'ensemble des priorités de Donald Trump.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est engagé aujourd'hui à punir le Hamas palestinien accusé des meurtres horribles des deux enfants otages de la famille Bibas, dont les corps ont été remis à Israël, mais sans leur mère. L'annonce par les autorités israéliennes qu'un troisième corps remis jeudi par le Hamas n'était pas celui de leur mère, mais celui d'une femme à Gaza, a provoqué une onde de choc en Israël. Et puis, l'état de santé du pape François, hospitalisé depuis une semaine pour une pneumonie bilatérale, montre des signes d'amélioration. Le souverain pontife étant à l'aide et travaillant même un peu, a annoncé le Vatican aujourd'hui. François, âgé de 88 ans, est soigné à l'hôpital Gemelli de Rome, où il a été admis le 14 février. Le pape est-il hors de danger? Non, le pape n'est pas hors de danger, a toutefois admis le professeur Sergio Alfieri, qui suit le souverain pontife. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Nani Talani.
La grève des coupeurs de canne au Cameroun a causé d'importantes pertes à la société sucrière du Cameroun, avec la destruction de 970 hectares de plantations, soit une perte de 50 000 tonnes de canne à sucre. Les dégâts, estimés à 5 milliards de francs CFA, ont été causés par des violences sur les sites de Mbadjok et Ngoteng. Une réévaluation des pertes sera faite à la fin de la campagne sucrière en mai 2025. Pour terminer, les échanges commerciaux entre le Kenya et les Émirats arabes unis ont plus que doublé au cours de la dernière décennie, atteignant 445 milliards de shillings en 2023. Le Kenya exporte principalement des produits agricoles, tandis qu'il importe des produits pétroliers, des machines et des produits chimiques des Émirats arabes unis.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Ligue des champions, Liverpool hérite du Paris Saint-Germain, duel espagnol et allemand en huitième.
Liverpool, l'équipe dominante du football européen de la première moitié de saison, a hérité d'un Paris Saint-Germain en pleine dynamique comme adversaire en huitième de finale de la Ligue des champions. Liverpool se rendra au Parc des Princes le 4 ou 5 mars avant de recevoir à Anfield le 11 ou 12 mars. Cette phase donnera deux chocs nationaux, d'abord entre le Real et l'Atlético Madrid. La confrontation s'annonce explosive et indécise puisque les deux équipes n'ont pu se départager récemment en Liga où ils sont au coude à coude. Les huitièmes de finale offriront un autre choc national entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Sans favori, clair, puisque là aussi, les deux équipes ont fait match nul il y a peu en Bundesliga. Le FC Barcelone de Hansi Flick, tête de série numéro 2, sera opposé au Benfica Lisbonne, qui l'accueillera au retour. Arsenal, solide cette saison, deuxième de Premier League et troisième de la phase de Ligue de Champions, sera favori contre le PSV Eindhoven, de même que l'Inter Milan contre le Feyenoord Rotterdam. Le Borussia Dortmund, finaliste de la dernière édition de la prestigieuse compétition européenne, va affronter Lille, surprenant septième de la phase de ligue. Aston Villa a aussi bénéficié d'un tirage favorable avec Bruges, qui a déjoué les pronostics en se débarrassant de l'Atalanta Bergame en barrage.
Le huitième de finale de la Ligue Europa, selon le tirage au sort effectué vendredi à Nyon.
Le club néerlandais de AZ Alkmaar affrontera l'équipe anglaise de Tottenham. Ajax Amsterdam, également des Pays-Bas, défiera les Allemands de Francfort. Les Norvégiens et surprise de la compétition, Bodo Glimt croisera le fer avec les Olympiakos de la Grèce. Les Tchèques de Victoria Plzeň se mesureront aux Italiens de la Lazio Rome. Les Turcs de Fenerbahçe accueilleront les Écossais de Glasgow Rangers. AS Rome de l'Italie rencontrera les Espagnols de l'Athletic Bilbao. Les Roumains de Steaua Bucarest joueront contre le club français de Lyon. Enfin, Real Sociedad de l'Espagne défiera les Britanniques de Manchester United. Les matchs aller se dérouleront le 6 mars, tandis que les matchs retour sont programmés le 13 mars.
NBA, les Lakers brillent grâce à James et Reeves. Les Spurs gagnent sans Wembanyama.
Les Los Angeles Lakers ont repris leur marche en avant en s'imposant 110-102 à Portland, alors que les San Antonio Spurs, orphelins de Victor Wembanyama, ont malgré tout gagné contre Phoenix 120-109 jeudi en NBA. LeBron James et Austin Reeves ont marqué à eux 72 points pour permettre aux Lakers de dominer Portland. James a affirmé qu'un long sommeil l'avait aidé à réaliser le 79e match à 40 points de sa carrière. Les San Antonio Spurs, privés de leur superstar Victor Wembanyama, ont battu les Phoenix Suns à Austin. Les Spurs ont annoncé plus tôt jeudi que Wembanyama manquerait probablement le reste de la saison.
Page des sports VOA Afrique signée Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les rebelles du M23 qui ont pris le contrôle de Goma depuis 3 semaines maintenant ont démantelé les nombreux camps qui hébergeaient des centaines de milliers de déplacés dans et autour de la ville. Ils demandent aux déplacés de rentrer dans leurs villages respectifs et aux humanitaires de les y suivre pour toute assistance. Eddie Sango a reçu dans nos studios l'initiateur et coordonnateur de l'ONG Africa New Day basée ici aux États-Unis qui s'occupe des personnes vulnérables en Afrique et notamment à RDC, le pasteur Camille Ntoto.
Je dois avouer que la situation est vraiment critique à ce moment. Beaucoup de gens n'ont pas accès à l'eau, n'ont pas accès à l'électricité, et même quand ils ont accès à certains de ces services, eh bien ce n'est plus comme c'était le cas avant. L'eau, par exemple, peut être contaminée parce qu'ils sont obligés d'aller au lac pour puiser de l'eau. L'électricité n'est pas accessible à tout le monde. Vous savez que pendant qu'il y a eu la prise de Goma, il y a beaucoup de gens qui sont décédés, on parle de plus de 3000 personnes. Certains de ces corps étaient sur les rues pendant longtemps. Imaginez la possibilité des maladies infectieuses qui pourraient éventuellement toucher un grand nombre de la population. C'est vraiment très difficile. Et nous voulons venir au secours de ceux qui sont en difficulté d'une manière ou d'une autre. Et nous le faisons. Avant que les camps soient démantelés par les occupants, pour l'instant, nous voulons être en mesure de pouvoir apporter l'assistance. Et même quand ils seront démantelés et que certaines personnes vont être obligées de rentrer dans les endroits où on leur a dit qu'ils devaient rentrer, nous voulons organiser une assistance pour ceux qui sont toujours dans le besoin, parce que ce n'est pas seulement ceux qui étaient dans les camps, mais maintenant les habitants de la ville eux-mêmes, parce que même les prix des biens, de la nourriture a augmenté à Goma.
Et sur le plan sécuritaire, comment faites-vous? Êtes-vous en mesure pour aller assister ces personnes?
La situation sécuritaire de la ville est en ce moment très relative. On ne peut pas dire qu'il y a la sécurité. On a entendu parler de vols, on entend des pillages, on entend des viols, on entend des actes de rétribution et de vengeance. Nous avons appris que des personnes assez influentes et connues comme des artistes ont été abattues en plein jour. Et donc la situation sécuritaire est assez difficile, mais nous faisons du mieux que nous pouvons avec les conditions actuelles.
Vous l'avez dit, le M23 a démantelé les camps des déplacés et leur demande de retourner dans leur lieu d'origine. Comment allez-vous faire pour les atteindre?
Eh bien, si nous ne pouvons pas atteindre ceux qui sont en train de partir, il y a, comme je disais, toute une population maintenant qui est vulnérabilisée. Ça veut dire que même s'ils n'étaient pas dans les camps, les personnes qui vivent en ville eux-mêmes sont dans des situations critiques et difficiles parce que n'ayant pas accès à l'eau, à la nourriture qui a augmenté et aux services sanitaires dont ils avaient accès précédemment, ceux-là deviennent des personnes qui sont déjà dans le besoin et qui ont besoin de l'assistance. Avant que les camps ne soient démantelés, sur la propriété que nous possédons, il y avait plus de 10 000 familles qui s'étaient installées. Et nous faisions ce que nous pouvions en termes de distribution des vivres et non-vivres pour aider ces personnes à pouvoir s'en sortir. Il y a une assistance qui doit être apportée en termes psychologiques, sociales, une assistance économique, financière également, et nous essayons de travailler le plus possible avec les organisations qui sont encore sur le terrain et qui sont en train de voler au secours des nécessiteux.
Pasteur Camille Ntoto, coordonnateur de l'ONG Africa New Day, basé ici aux États-Unis. Les analystes affirment que la propagande russe et les campagnes de désinformation ont été des facteurs clés derrière le départ des troupes françaises du Tchad et d'autres pays de la région du Sahel en Afrique. Dans ce reportage à N'Djamena au Tchad, Henry Wilkins examine de plus près les stratégies médiatiques de la Russie dans le Sahel à l'heure où les troupes françaises quittent le pays. Le récit est de Rosine Monizero.
L'armée tchadienne, que l'on voit ici fin janvier, marque le départ des troupes françaises du pays après plus de 60 ans. Lors de la cérémonie, le président tchadien Mahamat Idriss Déby a déclaré que ce départ était une nouvelle aube pour un Tchad pleinement souverain. Mais les analystes estiment qu'une campagne de propagande russe dans la région a joué un rôle clé dans le départ des troupes françaises. Bakary Sambé travaille à l'Institut de Tombouctou.
La Russie profite justement de cette histoire coloniale, de l'impérialisme, etc., pour de mieux en mieux mettre à mal la jeunesse africaine, les opinions publiques, mais aussi les influenceurs contre les intérêts français et contre la présence française au Sahel.
Le Tchad est le dernier des quatre pays du Sahel, avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger, à avoir demandé le départ des troupes françaises au cours des deux dernières années. Tous ont, dans le même temps, accueilli des troupes russes. Des experts comme Sambé affirment que la Russie utilise un réseau de faux comptes de médias sociaux pour amplifier les récits anti-français et répandre des théories de conspiration. La Russie a également créé des instituts culturels à travers le Sahel au cours des deux dernières années. Mais contrairement à d'autres instituts culturels, les journalistes d'investigation affirment que les maisons russes forment également des journalistes qui se chargent ensuite de diffuser de la propagande. L'ambassade de Russie au Tchad et le ministère russe des Affaires étrangères n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Mais pourquoi la Russie s'intéresse-t-elle tant au Sahel? Constantin Gouvi travaille à l'Institut Klingendael aux Pays-Bas.
À travers les campagnes de désinformation, l'objectif de la Russie a été principalement de semer les chaos dans la région, de sorte que la Russie veut venir et essentiellement remplacer des États comme la France en tant que nouveau partenaire principal pour les États du Sahel.
Sambé dit ceci.
C'est-à-dire que la démarche de la Russie, c'est justement pour dire aux Occidentaux et aux pays membres de l'OTAN, notamment la France, que si vous nous créez des problèmes géostratégiques, des problèmes géopolitiques dans le Donbass ou en tout cas en Europe, nous allons vous attaquer dans votre zone d'influence qui est le Sahel. Et donc, du coup, il y a une transposition de ce conflit sur le terrain sahélien.
Dans les rues de N'Djamena, il est clair que la population pense que le départ des troupes françaises du Tchad est une étape positive pour le pays. Saria Bakar est un étudiant.
La France, nous, on voit qu'elle n'a pas une bénéfice pour nous. Et tant que moi, je suis tchadien, non, je ne vois rien. Donc, c'est pas la peine qu'ils vont rester dans notre pays. Il faut qu'ils quittent. Nous, c'est pas notre problème, quoi.
Depuis que les troupes françaises ont commencé à quitter le Sahel en 2022, le nombre de morts dus aux conflits dans la région, principalement aux affrontements entre les armées nationales et les djihadistes, a augmenté de 65% selon les données du Armed Conflict Location and Event Data Project.
Les réactions aux propos du président américain Donald Trump critiquant son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, se poursuivent. M. Trump a réitéré son affirmation selon laquelle M. Zelensky est un dictateur parce qu'il n'a pas organisé d'élections depuis l'invasion russe de février 2022. Le point avec Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès des États-Unis. Son reportage est relaté par Jacques Aristide.
De nouvelles attaques russes ont été menées jeudi contre les villes ukrainiennes d'Odessa et de Kiev, alors que l'Europe continuait de commenter les déclarations du président américain Donald Trump, qui a dit que le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky se comportait en dictateur en ne tenant pas d'élections et ne cherchait pas à mettre un terme à la guerre.
Il y a 3 ans, un pays a illégalement envahi un autre, et depuis, les Ukrainiens se battent pour leur liberté.
Certains alliés de longue date indiquent constater un changement dans le partenariat sécuritaire avec les États-Unis.
En quelque sorte, l'Europe prend conscience qu'elle ne peut déléguer sa sécurité à d'autres puissances. Le gouvernement français est solidaire avec l'Ukraine qui lutte pour sa liberté, mais aussi pour notre sécurité européenne.
Les propos de M. Trump sur l'Ukraine ont attiré de vives critiques de la part des élus démocrates du Congrès américain.
Exiger une élection avant d'obtenir un cessez-le-feu ou une paix durable revient à mal interpréter, voire à déformer qui est l'agresseur et qui est la victime. Le président Poutine de Russie n'a jamais été élu lors d'une élection libre et équitable.
Certains élus républicains ont également contesté l'affirmation selon laquelle l'Ukraine aurait déclenché la guerre avec la Russie. Mais d'autres ont rejoint le président Trump en demandant la tenue d'élections en Ukraine.
Notre président a raison de dire qu'ils n'ont pas organisé d'élections depuis longtemps et qu'ils sont pratiquement sous loi martiale, ce qui n'est pas une bonne chose. Lorsqu'on prétend défendre la démocratie, il faut aussi la pratiquer.
L'ancien président russe Dmitri Medvedev, aujourd'hui vice-président du Conseil de sécurité de Russie, a écrit ceci sur X.
Si l'on m'avait dit il y a seulement 3 mois que ces mots viendraient du président américain, j'aurais éclaté de rire.
Pour Liana Fix du think tank américain Council on Foreign Relations, les critiques de M. Trump reprennent les allégations russes contre l'Ukraine.
Nous devons voir cela comme une tentative de Donald Trump de saper la légitimité du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et dans le pire des cas, comme une manière pour Trump d'adopter la position russe.
Volodymyr Zelensky a rencontré jeudi à Kiev l'envoyé américain en Ukraine, Keith Kellogg, mais une conférence de presse prévue initialement a été annulée à la demande des États-Unis.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le vice-président américain J.D. Vance a esquissé sa vision conservatrice des affaires étrangères jeudi lors de la conférence d'action politique conservatrice, accompagnée de politiciens étrangers qui disent soutenir le programme du président Donald Trump. Anita Powell, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, fait le point, le récit est de Lionel Gaïma.
Un avertissement pour l'Europe, prononcé par le vice-président J.D. Vance.
Il est évident que nous continuerons à avoir des alliances importantes avec l'Europe, mais je pense vraiment que la force de ces alliances dépendra de notre capacité à orienter nos sociétés dans la bonne direction.
J.D. Vance s'est exprimé jeudi lors de la conférence annuelle Conservative Political Action Conference. Cette année, la conférence a attiré des dirigeants européens de droite, d'Argentine, de Grande-Bretagne, de Pologne, de Hongrie et d'Italie. Les analystes affirment qu'ils assistent en temps réel à la dissolution de l'une des plus importantes alliances des États-Unis. Jim Kessler est le vice-président exécutif chargé de la politique à Third Way.
Je pense qu'il faut prendre très au sérieux ce qui se passe à la CPAC. Et vous savez, ce dont nous sommes témoins ici, c'est d'une séparation entre l'Amérique et ses alliés traditionnels en Europe et l'OTAN. Il s'agit d'un partenariat de 80 ans qui semble être en train de se fracturer. Je pense donc qu'il s'agit là d'une préoccupation pour les Américains et pour l'Europe.
Tous les Européens ne sont pas en désaccord avec l'administration Trump. Balázs Orbán est le directeur politique du premier ministre hongrois Viktor Orbán.
Mettez fin à la guerre. Le président Trump a raison. Comme l'a dit mon premier ministre, cette guerre doit cesser parce qu'elle ne mène nulle part. C'est de la folie. Des centaines et des centaines de milliers de personnes meurent.
Diana Ivanovici-Sosoacha, membre du Parlement européen qui dirige un parti d'extrême droite en Roumanie, a déclaré à la VOA que l'administration Trump l'avait invitée. Il s'agit, a-t-elle précisé, de son premier CPAC. Elle a parlé des propositions qu'elle partage avec Trump, des propositions qui, dit-elle, ont conduit la Cour constitutionnelle de la Roumanie à lui interdire de participer à la course présidentielle de 2024 dans ce pays.
Parce que j'ai des opinions contre l'Union européenne, parce que j'ai des opinions contre l'OTAN, avec ces actions de l'OTAN pour créer une guerre ou quelque chose comme ça, et à cause de mes déclarations de liberté, et parce que j'étais contre la vaccination Covid, et parce que j'étais contre les masques, et que j'étais la voix de la Roumanie, comme vous êtes la voix de l'Amérique dans Plandemic, vous avez des opinions inconstitutionnelles, donc vous ne pouvez pas être élu.
They told me you have unconstitutional opinions, so you cannot go to be elected.
La conférence CPAC a contribué à propulser Trump au sommet de la politique conservatrice. Il y a pris la parole lors de son premier mandat. Cette année, il s'y exprimera le samedi.
du monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Lionel Daïma. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.